Ouellette.
C'est le bout du bout.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
minutes. Nous sommes le jour J, le jour des contre-tarifs. Le jour de ce qu'a nommé Catherine Loubier comme étant le jour de la taxe carnée. J'aime beaucoup l'expression taxe carnée. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais j'imagine que le son marche bien. Catherine, bonjour, comment ça va?
Bonjour, ça va bien. Et comment ça va, vous deux?
Ça va. Bon, ça va, ça va. Écoute, c'est de l'incertitude comme tout le monde. Faut juste essayer de ne pas tomber dans la panique et la peur. Et j'ai l'impression que beaucoup de Canadiens qui sont tombés là-dedans dans les derniers... derniers mois. Et là, cette journée est arrivée, finalement. Est-ce que tu pensais qu'on allait vraiment le faire ou tu t'avais des doutes encore, mettons, il y a deux jours?
Non, je pense que si on lit les feuilles de thé du premier ministre Carney, là, il n'y avait aucune intention de revenir à la table dans les circonstances qu'il a décrites. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur la table. On ne l'a jamais su, vraiment.
Ouais.
Donc, ça, c'est fatigant, c'est tannant. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, beaucoup de parlementaires voudraient siéger pour être capable de poser des questions pour faire la lumière là-dessus, parce que c'est quelque chose que les Canadiens doivent savoir. Puis qu'est-ce qu'on a laissé sur la table?
Puis on me dit souvent ça dans les commentaires, même des auditeurs. « Ouais, mais là, auriez-vous signé un mauvais deal? » Peut-être pas,
ben,
je ne sais pas
deal,
c'est quoi le deal. Je ne sais pas.
Regarde, il faut être réaliste. Là. Tu sais, tantôt, tu dis qu'il y en a qui sont fâchés ou qui ont peur. Mais j'espère. Parce que c'est bien beau haïr Donald Trump, là, mais il faut se réveiller à un moment donné. Je veux dire, de s'imaginer qu'en faisant ça, on va avoir quelque influence que ce soit sur ce qui va arriver avec les élections, par exemple, mi-mandat, c'est ridicule. Que de s'imaginer que les démocrates vont courir pour nous sauver, c'est ridicule aussi. Que de s'imaginer qu'on pourrait avoir le statu quo puis revenir comme avant, où il n'y a pas de tarif avec les États-Unis puis qu'on ne laisse rien sur la table, c'est ridicule. Donc, tout ça fait en sorte que il faut revenir à la table. Il n'y a pas d'autre moyen parce que sinon, où est-ce que ça s'arrête? Donc, Donald Trump a menacé de mettre des tarifs ou en tout cas de prendre des mesures supplémentaires dans les prochains jours, peut-être demain.
Ouais.
Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va riposter? Et là, on en est juste aux mesures commerciales. Là, on ne souhaite pas ça. Mais si Donald Trump utilise d'autres genres de mesures, comme, par exemple, à la frontière, là, ça va mal aller.
Oui, empêcher physiquement le commerce.
Ben, il pourrait changer les règles à la frontière, les visas, il pourrait empêcher des transactions de se faire entre des compagnies canadiennes américaines, refuser d'utiliser ces agences de révision des transactions. Il y a plein de choses qu'il pourrait faire. Et je pense qu'il faut arrêter d'essayer de provoquer Donald Trump. Les autres pays dans le monde, là, ils sont pas dans cette situation-là. Là, il nous a poussés dans un coin en disant « Le Canada, c'est le seul pays qui avait fait des mesures contre les Américains, à part de la Chine.
Ouais. »
Et là, il parle de nous à tous les jours. Il rappelle ça à tous les jours. Et puis, il dit « Je vais gagner. » Donc, je vais faire un exemple, finalement, de ma victoire avec le Canada où je vais les mettre au pied du mur. Donc, pourquoi on est ici aujourd'hui dans cette situation-là? Les Britanniques, d'autres dans le monde, ont pris des deals qui n'étaient pas parfaits au début parce qu'ils voulaient baisser la température. Mark Carney, lui, fait le contraire.
Mais Mark Carney a un jeu politique, c'est clair. On ne sait pas exactement si c'était pour sa propre... au début, on pensait que c'était pour sa propre élection. Là, on commence à comprendre que ça jase avec les Européens. Il y a même un quotidien chinois qui a laissé couler qu'on aurait une entente ou des discussions militaires avec la Chine. Ça, c'est une très bonne idée en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Au-delà de ça... Il y a aussi des gens qui jasent, qui sont censés, qui ont les deux mains dedans. J'ai fait une liste tantôt là, d'à peu près tout ce qui est porte-parole de grands domaines de commerce et de manufacture au Canada. Tu me l'as noté d'ailleurs. Tu m'as donné un des exemples, c'est-à-dire Mme Véronique Proulx de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui dit on se tire dans le pied. J'ai Richard Blanchette, PDG de Sous-traitance industrielle Québec, qui dit qu'on va augmenter les prix, qu'on va payer le prix. Mm-hmm. J'ai Jasmin Guénette de la FCEI qui dit que c'est 49% des importateurs qui vont être frappés par les contre-tarifs de Carney, que les PME vont payer le prix. J'ai même l'économiste principal chez Desjardins, Mme Jean Jacob, qui nous dit que les tarifs de 50% de Donald Trump font déjà mal et que les contre-tarifs en ajoutent une couche. Et j'entends à travers tout ça plein de commentateurs qui nous disent « Oui, mais les Américains se font mal à eux-mêmes. » C'est juste
pas
qu'on...
Tant, non,
mais c'est
parce
que c'est
tant.
Ça l'affaire, non. C'est qu'on dirait qu'on ne prend pas en compte l'énorme différence entre les deux économies.
Non, c'est vrai. T'sais, ça les pince sur certains produits, à certains endroits. Mais sans plus, c'est la plus grande économie au monde. On se prend pour qui?
Ben c'est ça. T'sais, nous autres, c'est quelques pourcentages, mais nous autres, ça va fesser, là.
Ben c'est très triste, hein? J'ai obligé de le dire. Là. Quand j'entends ou je lis Véronique Proulx dire c'est notre propre gouvernement qui nous tire dans le pied, ça va faire très mal à nos grands manufacturiers. Écoutez, c'est pas compliqué. Soit ils vont finir par déménager aux États-Unis, il va y avoir des mises à pied massives, une augmentation des prix pour tout ce qu'on achète de ces produits-là, une fermeture d'entreprise, puis ils vont avoir besoin du soutien d'argent public. Et ça revient à quoi? Les taxes, notre argent dans nos poches. Donc, c'est pas jojo la situation maintenant. Et puis, M. Carney a fait une vidéo pour nous dire « Oui, ça va faire mal, mais il faut tenir bon. » Mais on n'a même pas eu le droit à une entrevue assise de Mark Carney pour aller au fond des choses de ce qu'il a laissé sur la table depuis le mois d'août. C'est pas normal. Et on n'a pas de Parlement qui siège. Donc, je pense que les Canadiens ont le droit de savoir. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une voie de passage ici? Il y a Doug Ford là, qui n'a pas aidé. On s'entend octobre avec sa publicité, ni en août apparemment, avec la question de l'automobile. Mais je pense que les Canadiens n'ont pas donné le mandat à Mark Carney de refuser une voie de passage pour une entente avec les Américains. Ils ont donné un mandat à Mark Carney de signer une entente avec les Américains. Ils ont donné un mandat à Mark Carney qui, pendant la campagne, disait que la Chine est la plus grande menace à notre sécurité au Canada. Ils n'ont pas donné un mandat de faire des ententes avec la Chine sur la sécurité pour devenir des alliés dans cette matière-là. Donc, je pense que M. Carney va commencer à sentir la chaleur. Pourquoi? Parce que à cause des pertes d'emplois, à cause de la pression sur les entrepreneurs, sur les créateurs d'emplois. Et ça ne pourra pas durer très longtemps parce que ça va faire trop mal. Il faut être capable de retourner à la table. Il faut que M. Leblanc, la négociatrice Jeannette Charrette, parle avec Greer et qu'ils reviennent à la table à crayon et qu'on accepte certaines choses. Et c'est pas fini après. Je vous donne un exemple. Starmer avait accepté certaines choses dans une entente qui a eu lieu au début entre les Britanniques et les États-Unis. Dans les faits, on n'a pas été capable de la mettre à profit. Là. Je ne vous expliquerai pas les raisons, là, mais ça concernait justement l'acier. Donc, de signer quelque chose qui parfois est peut-être même impossible sur papier pour faire tomber la pression puis qu'on puisse reprendre notre souffle puis que nos entreprises puissent survivre et que leurs ventes continuent aux États-Unis, c'est peut-être la meilleure voie. Et encore une fois, le gros trou noir, c'est qu'est-ce qu'on a laissé sur la table?
OK, bien, vas-y.
Non, mais je voulais... Tu sais que, Catherine, j'ai de la difficulté à comprendre la stratégie à Carney. Je sais qu'il va chercher le pouvoir, la séduction. C'est une forme de séduction, là. Avoir l'impression qu'il est en charge d'une stratégie qui... Là, on l'entend de plus en plus. Ce qu'on n'entendait pas il y a un mois, après cette semaine, là, c'est fou. Là. Je vois, il y a des chroniqueurs, il y a des articles, il y a des économistes, il y a des gens, des entreprises qui sortent pour dire, là, on tire dans notre propre chaloupe, on est en train de se noyer nous-mêmes. Tu sais, avec les... Bon, là, maintenant qu'on a tout dit ça, là, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est vraiment pour garder le pouvoir que Carney fait tout ça. Tu sais, j'essaie de... Parce que, dans le fond, on est en train de s'appauvrir. Puis on va tous payer très cher.
L'appui des Canadiens, by the way.
Oui, en plus.
Ben, je pense qu'il n'a pas été capable de ficeler un deal qui ferait mal peut-être à certaines personnes au pays, certaines entreprises dans certaines provinces, et d'être capable de vivre avec ça. C'est un peu ce qui est en train de se passer, mais la contre-réponse, là, le marché, la population lui renvoie le message, effectivement, là, ça va trop loin.
Oui.
Mais ce qui est dichotomique aussi, puis un sondage que je vous ai transmis tout à l'heure qui nous donne ces chiffres-là, c'est qu'OK, 75% 1% des Canadiens là, veulent une réponse ferme à tout prix. Il y en a qui n'en dorment plus, ils l'haïssent, ils veulent rien savoir. Mais d'un autre côté, 68% des Canadiens trouvent que le risque sur les pertes d'emploi, les hausses de taxes puis la retraite associée à cette réponse-là, c'est inacceptable.
Oui.
Alors, tu sais, il faut... Puis, il ne faut pas oublier aussi, là, je vous donne une autre statistique rapidement. Ce qu'on fait avec cette guerre qu'on alimente comme le l'huile sur le feu ces jours-ci, là, du côté canadien avec les contre-tarifs, et puis les paroles, hein, les paroles d'un bord puis de l'autre de la frontière, c'est que les Républicains, aujourd'hui, il y a une bien plus grande partie des Républicains qui disent que le Canada, c'est pas un ami, c'est un ennemi des États-Unis. On arrive presque à 40 % des Républicains qui disent ça. C'est un sondage du mois d'août. Et les démocrates, ben les démocrates, là, ils sont à peu près à 8, 9, 10 % Mais regardez ça, là. Marquez mes mots, là. Les démocrates viendront pas nous sauver.
Exact.
Sur ça. Alors, Catherine, je t'interromps parce que là, il y a des gens...
Des relations américaines, c'est très difficile à défaire ça. À défaire. Et il y a un an, on était les meilleurs amis et alliés. Il y a quelque chose qui n'a vraiment pas fonctionné. Et c'est Mark Carney qui est premier ministre.
Pourquoi tu dis que les... Parce que là, il y a des gens, dont un auditeur là, qui semble horrifié par Donald Trump. Il le déteste, comme tu dis. Là, il n'endort plus la nuit. Qui nous dit, il faut jouer l'horloge. Vous comprenez rien. Les démocrates s'en viennent au mois de novembre. La manette a été tirée. Bon, là, d'abord, peut-être que tu pourrais juste nous remettre les choses en perspective. Il n'y a pas de garantie là, que les démocrates vont gagner, encore moins les deux chambres là, au mi-mandat.
Non, mais il n'y a pas de gagnage. C'est ça, là. Réveillons-nous, là. C'est un bulletin sur le président. Vous me dites, vous allez attendre jusqu'à fin 2028, début 2029, quand il y aura un nouveau président? Ou vous me parlez des mi-mandats?
On parle des mi-mandats, je pense qu'on parle des mi-mandats.
On va se désillusionner tout le monde ensemble, là. Ça ne changera rien. Vous pensez que Donald Trump, même si la Chambre passe, le Congrès passe aux démocrates, qu'il va pas continuer à gouverner par ordre exécutif? Il s'en fout du Congrès. Complètement. C'est sûr que le Congrès va faire quoi de ces journées? Des enquêtes sur le président pour le destituer. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Mais personne, il n'y a rien qui va changer, là. Et ça va être ça, là. Donc, il y a peut-être, la réduction des coûts des prescriptions en matière de santé, le budget, vous savez, il y a toujours un lockdown à chaque année, là, il n'y aura plus d'argent, le budget n'est pas voté aux États-Unis. Les mesures concrètes que sur l'énergie, par exemple, qui doivent passer au Congrès n'avanceront plus. Au grand dam des Américains, parce qu'il a quand même fait des choses qui ont plu aux Américains, Donald Trump, en ce qui a trait au Congrès. Mais pour le reste, d'être capable d'invoquer des lois de 1930 ou des sections 232 pour pouvoir imposer des tarifs, il peut être créatif jusqu'à la fin des temps. Hein? Alors, et je vous rappelle aussi que quand on regarde les chiffres en ce moment aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a un changement qui nous dit que peut-être qu'en 2028, les démocrates pourraient avoir une chance de prendre le pouvoir quand on regarde le taux de satisfaction du président, qui est horrible pour lui en ce moment. Quand on regarde aussi le taux qui est le meilleur parti pour la gestion de l'économie et le coût de la vie, pour la première fois depuis Trump 1.0, revirement significatif, là où les Républicains ont toujours été le parti de l'économie et du coût de la vie. Maintenant, les démocrates le sont à 35 % contre les Républicains à 27 % Oui. Mais on est à 2 ans d'une élection générale. Oui. On n'est pas là.
Et même si on allait là, mettons, on se transporte dans 2 ans, moi, j'ai entendu des entrevues, entre autres Gavin Newsom, qui est allé dire, est-ce que vous allez retirer tous les tarifs? Il a dit, ah, ben là, écoute, le bon aura changé, puis on va être ailleurs, puis on verra.
Oui, non, il ne s'est pas commis, il ne se connaissera pas non plus.
Mais non, c'est ça.
Non, pourquoi? Parce que c'est comme, tu sais, dans un bar, quand tu dis... référer à la règle numéro 1 à nouveau, là, on l'a oublié. C'est quoi l'enjeu numéro 1? C'est le coût de la vie.
Exact.
Et les tarifs, ça fait quoi pour les Américains? Dans leur tête.
Dans le fond, ils
ou ce genre... Ben, c'est ça. Donc, c'est sûr que chez les Républicains... Oui, mais c'est pas ça. La vérité, c'est que les comptes tarifs, c'est s'auto-infligé des mots, des prix plus élevés, moins de compétition, etc., etc. Mais Il reste que les démocrates n'enlèveront pas les tarifs. Ils vont peut-être faire des choses symboliques, là.
Ouais.
C'est sûr que si c'est Mark Carney puis un démocrate à la Maison-Blanche, il y aura un relâchement de la pression. L'alcool reviendra sur les tablettes, etc., etc. Mais en termes de contrat, en termes de Buy America, Buy American, c'est Joe Biden a été le champion de Buy American.
Je pensais que c'était Barack Obama. Je pense, j'étais sûre que tu allais me dire que c'était Barack. C'est Barack qui a commencé, c'est ça? Hein? C'est, je pense que le Buy American, ou en tout cas, c'est juste qu'il l'a fait plus en douce. Puis après ça, bon, il y a Biden. Puis après ça, Donald Trump pèse sur le gaz. Mais ça part pas de Donald. C'est juste qu'avant, on n'en parlait pas.
Non, c'est ça, exactement.
Lui,
il faut avoir...
Il met du gaz dans le feu, là, mais tu sais, ça existe.
Oui, il faut avoir du monde responsable dans la Maison-Blanche puis au bureau du premier ministre à Ottawa qui vont désarmer les deux équipes de négociation pour pouvoir avoir une paix de libre-échange. Pourquoi? Parce qu'on est un continent fort ensemble et que nos ennemis, les pays hostiles, à ce que je sache, c'est pas supposé être l'un et l'autre dans le continent. Puis je pense que après la présidence de Donald Trump, qui est abrasif, qui chaque jour nous fait nous prendre la tête avec ses déclarations, ses mèmes, ses tweets, ça va passer et on va revenir autant que ça se peut à une relation détendue, en tout cas, sinon meilleure au niveau commercial. Mais ça va prendre du temps avant de défaire ce qui a été fait, ça c'est sûr.
Ouais,
pour
ça.
L'instant, il faut retourner à la table parce qu'on ne pourra pas tenir bien longtemps.
C'est
là.
Ça.
Et on ne sait pas ce qui s'en vient.
C'est ça.
On
c'est sans ce compter, demain, Trump se lève et dit « Ah, finalement, ce n'est pas 50, c'est 100 %. On fait quoi? On redouble les contre-tarifs? » Je ne sais pas.
Non, je ne pense pas qu'on pourrait survivre à ça, malheureusement. Mais puis, tu sais, l'histoire de Bombardier, par exemple, est-ce qu'il va vraiment mettre ça à contribution? Je ne pense pas, mais il est provocateur aussi.
Oui.
Il essaie d'affaiblir l'ennemi. Mais comme le disait Jean Chrétien, l'ancien premier ministre, il renomme les lacs, mais le lac, lui, il s'en fout, c'est un lac. Donc, ça n'a aucune conséquence. Ça n'a aucune conséquence. Moi, c'est pas... Donc, mais ce que je reviens à ce que, par exemple, les mots de Véronique Proulx, c'est très important. C'est très, très important. On voit qu'il y a, il y a un revirement aujourd'hui. Là. Ça chauffe. Comme un message clair là, des créateurs d'emplois, des manufacturiers à Mark Carney en disant « C'est trop, on peut pas prendre cette pression-là. »
Ils sont unanimes.
Parce que sont unanimes. Puis il y a souvent des intrants américains qui arrivent au Québec pour faire des produits finis qu'on revend. Ça, c'est double tarifé, ça, là.
Catherine, merci, j'aime ça. Tu as le droit de prendre des vacances, mais pas trop souvent. Là. On a besoin de toi.
Bon, je vais être là pour un bout de temps en poste. Merci à vous deux.
Je fais des
toujours
blagues. Merci d'être là. On avait hâte que tu reviennes. Merci, bonne journée, Catherine.
Bonne journée, bye-bye.
Salut, bye. Catherine Loubier, ancienne déléguée générale du Québec à New York, conseillère principale de Stephen Harper et femme qui a une tête, ses épaules, pas à peu près. 14h11, on vient.
Ouellette. Téléphone, texto. En direct. 88-670-9098. Radio X.